Aujourd'hui, je vais vous lire la synthèse des yogas vers la vision du temps supramental. Alors, c'est, je vais quand même, le 4e livre de la synthèse des yogas et c'est le yoga de la perfection de soi. Sépare l'éviction progressive du fonctionnement ordinaire de l'intelligence et en s'en remettant totalement et complètement au moi intuitif et par suite en intuitivisant toutes les parties de l'être mental que le mental d'ignorance a le plus de chances d'être remplacé. Peut-être pas totalement encore, par le mental de connaissance indépendante. Mais pour ce type de connaissance surtout, il est nécessaire de mettre fin à tous les échafaudages mentaux qui s'édifient sur les bases du mental d'ignorance. La différence entre le mental ordinaire et le mental intuitif est que l'un cherche dans l'obscurité ou tout au plus avec son propre flambeau vacillant, et il voit d'abord les choses comme elles se dessinent dans cette lumière, et puis, quand il ne sait pas, échafaude par l'imagination, par les inférences douteuses et autres supports ou succès d'années des représentations qu'il prend volontairement pour la vérité. Mais qui sont des projections d'ombre, des édifices nuageux, des extrapolations irréelles, des anticipations, possibilités et probabilités trompeuses qui lui tiennent lieu de certitude. Le mental intuitif n'échafaude rien de cette façon artificielle. S'il veut être un récepteur de la lumière et il laisse la vérité se manifester en lui et organiser ses propres édifices. Mais tant que le fonctionnement reste mixte et que l'on tolère les échafaudages et les imaginations du mental, il n'est pas possible que cette passivité du mental intuitif à la lumière supérieure. La lumière de vérité soit complète, ni qu'elle domine solidement et par conséquent, il ne peut pas y avoir d'organisation ferme de la connaissance du triple temps. C'est cette obstruction et ce mélange qui font que le pouvoir de vision du temps, rétrovision, circumvision et prévision, qui est parfois le signe du mental illuminé. Et non seulement un mental normal au milieu des autres, au lieu de faire partie de la texture même du fonctionnement mental, mais qu'il est aussi intermittent, très partiel et souvent gâté par des mélanges non détectés ou par des interventions d'erreurs qui se substituent spontanément. Les échafaudages mentaux immiscés sont principalement de deux sortes. La première est la plus puissamment déformatrice et celle qui vient de la pesée de la volonté. La volonté affirme son droit de voir et de déterminer, se mêle à la connaissance et ne laisse pas l'intuition rester passive à la lumière de vérité, ni être son canal pur et impartial. La volonté personnelle, quelle qu'en soit la forme, émotion et souhait du cœur ou désirs vitaux, forts, volition dynamique ou proférence délibérée de l'intelligence est une source évidente de déformation pour peu que ces diverses formes essayent de s'imposer à la connaissance et de nous faire prendre ce que nous désirons ou ce que nous voulons pour ce qui était, pour ce qui est ou pour ce qui doit être. En fait, elles empêchent la connaissance vraie d'opérer. Ou si la connaissance se manifeste en soi peu, elles s'en saisissent, la défigurent méconnaissablement et font de la déformation résultante la base justificatrice d'une masse de mensonges qui sont simplement des créations de la volonté. La volonté personnelle doit être écartée, ou bien ses suggestions doivent être tenues à distance jusqu'à ce que l'on puisse les référer suprêmement à la lumière impersonnelle supérieure. Alors, elles seront admises ou rejetées suivant la vérité qui vient de plus profond que le mental et d'au-dessus. Mais même si l'on tient en respect la volonté personnelle et si le mental reste passif pour recevoir, l'un et l'autre peuvent être assaillis par des suggestions de toutes sortes de forces et de possibilités qui luttent pour se réaliser dans le monde et qui viennent faire miroiter comme la vérité du passé, du présent ou de l'avenir des choses qui ont elles-mêmes lancé sur le torrent de leur propre volonté d'être. Si le mental prête attention aux suggestions de ces imposteurs, il accepte leurs valeurs fabriquées et ne les écarte pas ou ne les réfère pas à la lumière de vérité. Il en résultera de même une inévitable déformation et une obstruction de la vérité. Il est possible d'exclure complètement l'élément de la volonté et de faire du mental un enregistreur silencieux et passif de la connaissance lumineuse supérieure. En ce cas, il devient possible d'avoir une réception beaucoup plus exacte des intuitions du temps. Cependant, l'intégralité de l'être voudrait un fonctionnement volontaire au lieu d'une connaissance purement inerte. Par conséquent, le remède plus large et plus parfait est de remplacer progressivement la volonté personnelle par une volonté universalisée qui n'insiste sur rien tant qu'elle n'a pas fermement senti qu'il s'agit d'une intuition, d'une inspiration ou d'une révélation provenant de cette lumière supérieure en laquelle la volonté ne fait qu'un avec la connaissance. L'autre sorte d'échafaudage mental tient à la nature même de notre mental et de notre intelligence, à sa manière d'aborder les choses du temps. Ici-bas, tout est vu par le mental comme une sorte de fait réalisés avec leurs antécédents et leurs conséquences naturelles, comme un indéterminé de possibilités, et peut-être bien que ce ne soit nullement certain pour lui, un quelque chose derrière qui détermine une volonté, une destinée ou un pouvoir qui rejette certaines possibilités et en autorise ou en impose d'autres parmi la multitude des possibles. Par suite, ces échafaudages sont constitués en partie d'inférences tirées, des faits présents et passés, en partie d'une sélection volontaire ou imaginaire ou conjecturale parmi les possibilités de leur combinaison, et en partie d'un raisonnement décisif et d'un jugement préférentiel ou d'une volonté intelligence créatrice qui s'impose et qui tente de fixer parmi la masse des faits présents et des possibilités la vérité définitive qu'elle s'efforce péniblement de découvrir ou de déterminer. Tout est ce processus indispensable pour notre pensée et pour notre action mentale doit être exclu ou transformé avant que la connaissance intuitive puisse avoir quelque chance de s'organiser sur une base solide. Cette transformation est possible parce que le mental intuitif accomplit le même travail et couvre le même terrain, mais en maniant différemment les matériaux et en projetant une autre lumière sur leur sens. Cette exclusion est possible parce que, en fait, tout est contenu dans la conscience de vérité au-dessus. Et il n'est pas hors de nos moyens de réduire au silence le mental d'ignorance et d'obtenir une réceptivité féconde où les intuitions qui descendent de la conscience de vérité peuvent être reçues avec une exactitude puissante et subtile et où tous les matériaux de la connaissance sont vus à leur place exacte et dans leur proportion vraie. Pratiquement, nous nous apercevons que les deux méthodes sont utilisées alternativement ou ensemble pour effectuer la transition d'une mentalité à l'autre. Quand le mental intuitif manipule le mouvement du triple temps, il doit, dans la sensation, dans la pensée et dans la vision, voir correctement trois choses: les données immédiates, les possibles et les impératifs. D'abord, un premier fonctionnement intuitif fait son apparition qui voit principalement le courant des données immédiates se succédant dans le temps tout comme le mental ordinaire, mais avec une immédiateté de vérité directe et une exactitude spontanée dont le mental ordinaire est incapable. Il les voit tout d'abord par une perception, un mouvement de pensée, une sensation de pensée, une vision de pensée qui détecte instantanément les forces à l'œuvre sur les personnes et sur les choses, ou les pensées, les intuitions, les impulsions, les énergies, les influences qui agissent en elles et autour d'elles, celles qui sont déjà formulées et celles qui sont en cours de formation, celles qui viennent aussi ou qui sont sur le point de venir en elles ou sur elles de l'entourage ou des forces et sources cachées, invisibles pour le mental normal. Puis il démêle le réseau de ses forces par une rapide analyse intuitive qui n'a nul besoin de chercher ni de peiner, ou par une vue synthétique globale. Enfin, il perçoit celles qui ont une action et celles qui n'en ont pas, ou qui ont une action partielle et il voit aussi le résultat qui doit émerger. Tel est le processus intégral de la vision intuitive des données immédiates, mais il existe d'autres processus qui sont d'une nature moins complète. Car le pouvoir de voir le résultat peut se cultiver sans qu'il y ait perception préalable ou simultanée des forces à l'œuvre, où celles-ci peuvent n'être vues que plus tard et le résultat peut jaillir en premier dans la connaissance d'un seul coup et immédiat. D'autre part, il est possible qu'il ait une perception partielle ou complète du réseau des forces, mais une incertitude quant au résultat définitif ou une conclusion lente ou une certitude relative. Telles sont les étapes du développement de la capacité de vision totale et unifiée des données immédiates. Ce genre de connaissance intuitive n'est pas un instrument tout à fait parfait de connaissance du temps. Il se meut généralement dans le courant du présent et ne voit correctement que le présent, le passé immédiat et l'avenir immédiat d'un moment à l'autre. Il est vrai qu'il peut se projeter en arrière et par le même pouvoir et le même procédé. Reconstituer une action passée ou se projeter en avant et reconstituer correctement quelque chose qui appartient à un avenir plus lointain. Mais pour le pouvoir normal de vision de pensée, c'est un effort plus rare et plus difficile, et généralement, si l'on veut se servir plus librement de cette projection de soi, l'aide et le soutien de la vision psychique sont nécessaires. En outre, ce genre de connaissance intuitive ne peut voir que ce qui se produira dans le déroulement des données immédiates, à condition qu'elles ne soient pas dérangé. Sa vision ne s'applique plus si, d'une façon imprévue, quelques nuées de force, de ruées de force ou quelques interventions de pouvoir descendent d'une région de potentialité plus vaste et modifient le réseau des conditions. C'est un phénomène qui arrive constamment dans l'action des forces au sein du mouvement du temps. La connaissance intuitive peut se tirer d'affaire en recevant des inspirations qui lui illuminent ses potentialités plus vastes, des révélations impérieuses qui lui indiquent le facteur décisif parmi ses potentialités, ses conséquences. À l'aide de ces deux pouvoirs, elle peut corriger les limitations du mental intuitif dans sa manipulation des données immédiates. Mais ce premier fonctionnement intuitif n'est jamais tout à fait ni parfaitement capable de manier ses sources de vision plus vaste, et il ne peut en être autrement quand un pouvoir inférieur traite des matériaux qui lui sont fournis par une conscience plus vaste, du fait de sa concentration sur le courant des données immédiates. Il est nécessairement sujet à une limitation de vision considérable. Alors, je vais terminer avec ceci. Or, cette limitation incitera le mental d'ignorance qui subsiste encore autour ou subconsciemment à se réaffirmer se précipiter au renfort et à fonctionner quand la connaissance intuitive s'y refuse ou en est incapable de le faire. Et il réintroduira avec lui sa confusion, ses mélanges et ses erreurs. La seule sécurité est de refuser d'essayer de savoir, ou du moins de laisser en suspens l'effort de connaissance jusqu'à ce que la lumière supérieure descende et accepte de fonctionner. Cette retenue est difficile pour le mental et si nous l'exerçons trop béatifiquement, elle risque de limiter le développement du chercheur. Mais d'autre part, si nous laissons le mental d'ignorance réémerger et le chercher avec ses propres forces trébuchantes et imparfaites, nous risquons d'osciller sans fin entre les deux états ou d'aboutir à un fonctionnement mélangé de ces deux pouvoirs au lieu d'une perfection précise, bien que relative. La solution de ce dilemme est une perfection supérieure dont la formation du mental intuitif, puis inspiré, puis révélateur, n'est qu'une étape préparatoire. Cette perfection s'obtient d'abord par la descente et l'influx constant d'une lumière et d'une énergie supramentale de plus en plus abondante dans l'être mental tout entier, puis par une élévation constante de l'intuition et de ses pouvoirs vers leur source, dans les gloires sans bornes de la nature supramentale. Dès lors, un double mouvement s'opère. Celui du mental intuitif qui perçoit la lumière au-dessus, qui s'ouvre à elle et lui réfère constamment sa connaissance pour en recevoir appui et confirmation, et celui de cette lumière elle-même qui crée un suprême mental de connaissance. En fait, c'est l'opération même du supramental dans une substance mentale de plus en plus transformée et dans une suggestion de moins en moins impérieuse aux conditions mentales. Ainsi se forme un fonctionnement supramental mineur, un mental de connaissance qui tend constamment à se transformer en le véritable supramental de connaissance. Le mental d'ignorance est de plus en plus définitivement exclu. Sa place est prise par le mental de connaissance oublieuse d'elle-même, illuminée par l'intuition. Et puis à son tour, cette intuition s'organise plus parfaitement et devient capable de répondre à des appels de plus en plus vastes. Le mental de connaissance grandissant opère comme un pouvoir intermédiaire. À mesure qu'il se forme, il travaille sur le mental de connaissance oublieuse d'elle-même, le transforme ou le remplace et impose le changement ultime qui effectue la transition du mental au supramental. C'est ici que commence à s'opérer un changement dans la conscience du temps et dans la connaissance du temps, changement qui ne trouve son assise, sa réalité entière, son sens complet qu'au niveau supramentaux. C'est donc par rapport à la vérité du supramental que le fonctionnement du mental de connaissance peut s'expliquer plus clairement. Car le mental de connaissance n'est qu'une projection et un dernier échelon dans l'ascension vers la nature supramentale. Sri Aurobindo. Voilà, je termine vers la vision du temps supramental de la synthèse de yoga de Sri Aurobindo. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère de cette lecture. Ganga Lakshmi.